À vous tous, bonsoir et bienvenue. Je pense que vous avez noté, cela ne vous a pas échappé, qu'en 2010, certains auront véritablement un Noël. Parce que Noël est censé être quoi? Est censé être quoi? La fête qui célèbre la naissance de Jésus. Mais vous savez tous comme moi que Jésus n'est pas né un 25 décembre. Vous savez bien comme moi qu'il est impossible que Jésus soit né en décembre, car le mois de décembre, c'est le mois de l'hiver, et en hiver, les bergers ne mènent pas les brebis à la montagne. Et la Bible raconte que lorsque Jésus est né, dans cette période, les bergers étaient dehors avec leurs troupeaux, et c'est là qu'ils ont rencontré des anges. Jésus est plutôt né au printemps ou en été. Mais vous aurez plus de détails sur cela prochainement, car nous allons revenir sur ces sujets prochainement. Mais le 25 décembre, ce sera véritablement pour tous ceux qui le choisissent le jour de leur nouvelle naissance, le jour de leur nouvelle naissance avec le Seigneur. Car Jésus a dit, « Si vous ne naissez d'eau et d'esprit, vous ne pouvez voir le royaume de Dieu. » Par conséquent, si vous avez compris ce que Dieu fait pour vous, vous cheminez avec le Seigneur, vous venez ici, vous entendez sa parole, vous reconnaissez que c'est la vérité. Cette parole vous fait du bien. Eh bien, mes chers amis, vous devez vous déclarer pour le Seigneur, car la Bible nous dit que la foi se voit. Qu'est-ce que la Bible dit? La foi se voit. Lorsqu'on dit qu'on aime Dieu, lorsque quelqu'un dit qu'il a confiance en Dieu, lorsque quelqu'un dit « Je reconnais que le Seigneur m'a sauvé et béni », cela ne peut pas être quelque chose qui est caché dans ton cœur. La foi que tu as, la reconnaissance que tu as pour Dieu, le désir que tu as de lui appartenir, la Bible dit que cela doit se voir. Par conséquent, le baptême est le meilleur moyen de déclarer sa foi, de déclarer son amour pour le Seigneur. Quand on veut déclarer son amour à un être humain, on lui apporte des fleurs, on lui apporte une bague, on l'invite au mariage, mais avec le Seigneur, quand on veut lui déclarer notre amour, si quelqu'un veut dire à Dieu, « Je t'aime, je te remercie pour ce que tu fais pour moi », j'ai confiance en toi et je crois que tu peux me sauver. Cette personne qui a cette foi, elle se baptise comme Jésus a été baptisé, comme Paul a été baptisé, comme Jean, Pierre et les autres ont tous été baptisés. Alors certainement, vous vous dites, mais il a dit cela, mais comment est-ce qu'il peut nous prouver cela dans la Bible? Alors la Bible va nous prouver cela ce soir. Et vous verrez que ce n'est pas la parole d'un pasteur, ce n'est pas la parole d'un prédicateur, ce n'est pas la parole d'un homme, d'une église, mais c'est la parole de Dieu qui affirme cela. Regardez avec moi, et nous allons considérer des faits bibliques qui montrent que le baptême est un témoignage et qui montrent que la foi véritable se voit. La foi véritable se voit. Nous verrons cela d'abord au travers de l'histoire biblique du peuple d'Israël. Vous savez que le peuple d'Israël est un peuple que Dieu a choisi dans le but de faire connaître sa parole aux hommes. Le peuple d'Israël, c'est un peuple qui descend d'Abraham, et ce peuple a vécu avec Dieu un certain nombre d'expériences. Mais la libération d'Israël d'Égypte, c'est pour nous un témoignage que la foi se voit. Nous tous ici, nous avons au moins vu un film qui montre la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Nous avons tous au moins vu un film qui montre quand le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge à pied sec. Nous avons au moins tous lu un jour une histoire ou dans la Bible quelque chose qui parle de la libération du peuple d'Israël. Mais le peuple a pu être libéré parce que le peuple a montré sa foi. Regardez comment la Bible le dit. Lisez avec moi et vous allez découvrir succinctement l'histoire de la libération d'Israël. D'abord, la Bible nous dit qu'Israël habita pendant un certain temps, où ça? Dans le pays d'Égypte. Et nous lisons dans le livre de la Genèse, au chapitre 47 et au verset 27. Je rappelle, ils vont dire, les Israélites sont parmi nous et ils se développent tellement, si on ne fait rien, à un moment, ils vont nous supplanter dans le pays. Et regardez qu'est-ce qu'ils vont faire. La Bible dit dans Exode 1, Exode chapitre 1er, versets 13 et 14. Donc après Genèse, c'est tout de suite Exode. Genèse, après tout de suite, vous avez Exode. Exode chapitre 1er, versets 13 et verset 14. Lisons ensemble. La Bible dit, alors, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Comment nous pourrions dire cela plus simplement? Nous pourrions dire simplement que les Égyptiens les ont emmenés en esclavage. Ils les ont réduits à l'esclavage. Et le verset 14 dit quoi? Ils leur rendirent la vie comment? Amère, par de rudes travaux, en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Les Israélites vivent en Égypte. Ils se développent tellement que les Égyptiens disent « Attention, ce peuple va nous dominer ». Ils disent « Pour les maîtriser, on va les réduire en esclavage ». Ils les réduisent en esclavage. Mais vous savez, Dieu n'assiste jamais, innocemment et sans rien faire quand son peuple est réduit en esclavage. Lisons la fin du verset 14. Et c'était, comment? C'était comment vous lisez? Avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le peuple d'Israël vivait un esclavage terrible. Les Égyptiens étaient cruels avec eux. Mais alors, comme je vous le disais, Dieu va dire, je n'abandonne jamais mon peuple. Je ne laisserai pas mon peuple à toujours entre les mains des Égyptiens. Je ne laisse jamais mes enfants toujours dans l'esclavage. C'est pourquoi, mes chers amis, s'il y a quelqu'un ici qui écoute maintenant et qui est dans un esclavage quelconque, soit l'alcool, soit la cigarette, soit la drogue, soit la pornographie, n'importe quel esclavage, n'importe quelle dépendance que vous avez, si vous faites ce que nous allons lire maintenant, ce qui sera la suite de notre réflexion, Dieu peut vous libérer de n'importe quel esclavage. Je ne suis pas en train de dire que si vous êtes addict à l'alcool ou au tabac, que vous n'aurez peut-être pas besoin de faire une cure avec des médecins, mais je suis en train de vous dire qu'avec la volonté que le Seigneur va vous donner, avec les bénédictions qu'il va vous donner, avec l'éclairage qu'il va donner au médecin qui va vous soigner, le Seigneur vous permettra d'être délivré. Parfois, Dieu pourra même décider, et il l'a déjà fait, de vous délivrer sans que vous ne passiez par aucune cure. Dieu pourra dire, ce soir, j'arrache mon enfant de l'alcool, de la drogue ou du tabac. Ça dépend de votre foi. Ça dépend de votre confiance et ça dépend aussi de votre engagement pour le Seigneur. Regardez ce que Dieu va dire. Dieu va susciter un homme qu'on appelle Moïse. Il va l'utiliser comme étant le fer de lance de son action. Ce n'est pas Moïse qui libère, c'est Dieu qui libère. Moïse est l'instrument entre les mains de Dieu. Dieu utilise toujours un instrument humain. Dieu utilise toujours un homme pour communiquer avec le reste. C'est pourquoi je le répète chaque soir. N'attendez pas que Jésus descende s'asseoir dans votre salon pour vous convertir. Simplement, parfois, Dieu envoie un homme pour vous parler. Dieu vous envoie dans un endroit où un homme parle de sa part. Et là, considérez que c'est la parole de Dieu que vous entendez. La seule chose que vous devez voir, est-ce que ce qu'il dit vient de Dieu, vient de la Bible ou vient de son propre fond? La Bible dit que Dieu utilise Moïse. Et Dieu dit à Moïse, va voir Pharaon. Dieu ne va pas lui-même voir Pharaon. Comme il ne viendra peut-être pas lui-même te voir, il envoie Moïse, il t'enverra un Moïse. Dieu envoie Moïse et il lui dit, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, Israël est mon premier-né. Et Dieu dit à Pharaon, je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Exode, chapitre 4, versets 22 à 23. Mes chers amis, je voudrais que nous puissions revenir en arrière et analyser ce verset. Dans ce verset, vous avez une clé pour comprendre le jugement de Dieu, pour comprendre tous les jugements de Dieu. Regardez bien ce que Dieu dit. Dieu dit à Pharaon, écoute, Israël, c'est mon fils, c'est mon premier-né. Tu es en train de massacrer mon premier-né. Tu es en train de faire mourir mon premier-né. Tu es en train de torturer mon premier-né. Je te demande de laisser aller mon premier-né. Si tu ne laisses pas aller mon premier-né, je ferai mourir ton premier-né. Dites-moi, mes amis, est-ce que le jugement de Dieu est sévère? Oh là, oui, certains disent, non, d'autres disent. Mais alors, je vous poserai une autre question. Est-ce que le comportement de Pharaon est sévère? Oui. Et alors, vous comprenez que le jugement de Dieu est très simple. Il consiste simplement à rendre à chacun selon ses œuvres. Comme on dit en créole, ça ou fait, ça ou est. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Dieu dit à Pharaon, écoute, libère mon fils, sinon ton fils va mourir. Tu fais mourir mon fils, j'ai besoin de sauver mon fils. Si tu ne le laisses pas aller, je ferai mourir le tien. Mais vous savez, Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon, mes amis, que lorsque Dieu dit cela à Pharaon, Dieu ne va pas faire cela tout de suite. Vous savez qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va envoyer 9, combien j'ai dit? 9 autres plaies à Pharaon avant de faire mourir son fils pour le sensibiliser. Le Nil va se transformer en sang, il y aura des ténèbres sur l'Égypte, il y aura une invasion de sauterelles, il y aura des grelots qui vont tomber, etc., etc., etc. Mais jusqu'à présent, le jugement, la sentence n'est pas encore tombée. Dieu fait un tas de choses avant, parce que Dieu ne veut pas faire mourir le fils de Pharaon. Ce que Dieu veut, c'est simplement libérer son fils. Mes chers amis, Dieu n'a pas changé. Dieu agit toujours de la même manière aujourd'hui. Si chaque fois que nous avions péché, Dieu faisait tomber sur nous le salaire du péché, il n'y aurait personne ici. Car la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu est bon. Nous péchons. Nous vivons parfois dans le désordre. Mais Dieu n'exécute jamais tout de suite la sentence. Dieu prend du temps avec toi. Dieu prend du temps avec Pharaon. Dieu envoie des signes, il envoie le feu, il envoie les sauterelles, il envoie les grelons, il envoie plein de choses. Parce que Dieu ne veut pas faire mourir le fils de Pharaon. De la même manière, Dieu ne veut pas que nous mourions. Dieu veut que nous soyons sauvés, mes amis. Et aujourd'hui, si Jésus n'est pas encore revenu, ce n'est pas parce qu'il a oublié, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas, c'est parce qu'il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance et à la vie éternelle. Mais Pharaon, comme nous disons en créole, tête li di, vous connaissez l'expression? Pharaon ni tête di, il a la tête dure, malgré tout ce qu'il voit. Il voit les 9 plaies passer sur son pays. À chaque fois, il dit « je veux bien », mais après, il se rétracte.
À chaque fois, il dit, je veux bien, mais après, il se rétracte. Et finalement, Pharaon va obliger Dieu à mettre la sentence à exécution. Et voilà que Dieu va dire, puisque c'est la seule solution, puisqu'il n'y en a pas d'autre, eh bien, allons-y. Mais Dieu y va, pas gaiement, parce que Dieu n'est pas le Dieu de la mort, Dieu c'est le Dieu de la vie. Mais comme il est le Dieu de la vie, il faut qu'il fasse vivre son peuple. Et il sait que s'il laisse son peuple là, le peuple sera détruit. Donc Dieu a un choix. Ou bien je détruis tous les premiers-nés d'Égypte, ou bien je laisse mourir mon peuple. Est-ce que le choix est simple? Le choix n'est pas simple. Le choix n'est pas simple. Et je voudrais que nous comprenions que Dieu n'applique pas des jugements avec gaieté. Quand Dieu juge, c'est parce que l'homme ne lui laisse pas le choix. Et à ce moment, mes chers amis, Dieu va mettre le jugement à exécution. Mais Dieu veut que son peuple soit épargné. Il dit, je vais faire mourir tous les premiers-nés qui sont en Égypte, mais il veut que son peuple soit épargné. Mais alors, c'est là maintenant que je voudrais avoir votre concours. Dites-moi, mes amis, lorsque Dieu regarde l'Égypte, est-ce que vous pensez que Dieu ne sait pas qui est fidèle et qui n'est pas fidèle? Est-ce que vous pensez que Dieu sait qui est fidèle et qui n'est pas fidèle? Quand Dieu regarde la Martinique, est-ce qu'il ne sait pas qui est fidèle et qui n'est pas fidèle? Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu est omniscient. Il lit dans nos cœurs, il lit dans nos pensées. Mais, pourtant, regardez ce que Dieu va demander à son peuple de faire. La Bible dit que Dieu va demander au peuple de faire quelque chose de particulier. Nous lisons cela. Nous lisons au chapitre 12 du livre de l'Exode et au chapitre 3. Dieu dit à Moïse, écoute Moïse, va voir mon peuple. Tout à l'heure, Dieu avait dit à Moïse d'aller voir Pharaon. Mais maintenant, il dit à Moïse, écoute maintenant, va voir mon peuple. Et qu'est-ce que Dieu dit au peuple de faire? Qu'est-ce que Dieu dit au peuple par l'intermédiaire de Moïse? Regardez avec moi. Exode 12, chapitre 12, verset 3. Vous avez trouvé? Alors lisons. La Bible dit que Dieu dit à Moïse, dis-leur. Dis-leur quoi? Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Chaque famille d'Israël devait prendre un agneau. Mais pourquoi faire? Regardez la réponse. Exode toujours, chapitre 12, maintenant au verset 11. Qu'est-ce qu'il devait faire avec cet agneau? Qu'est-ce qu'il devait faire avec cet agneau? Regardez. Exode 12, verset 11. Quand vous le mangerez. Donc, qu'est-ce qu'il devait faire avec l'agneau? Il devait le... Je ne vous entends pas. Il devait le manger. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. Et cet agneau, ce repas s'appelle quoi? La Pâque. C'est la Pâque de l'Éternel. Maintenant, mes amis, la manière dont ils mangent l'agneau, vous voyez qu'ils mangent l'agneau comme des gens qui sont sur le point de partir. Ils mangent l'agneau habillé, prêt à partir. Au moment où ils mangent l'agneau, ils savent que le départ est imminent. Ils savent que Pharaon va bientôt les laisser aller. Et qu'est-ce qu'ils devaient faire d'autre? Regardez au verset 12 maintenant. Exode 12, verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Ensuite, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte, je suis l'Éternel. Dieu leur dit, la nuit de la Pâque, c'est la nuit de la libération. La nuit de la Pâque, c'est la nuit où je vais passer en Égypte et je vais faire mourir tous les premiers-nés d'Égypte et ainsi les Égyptiens vont vous laisser partir. Mais regardez le verset 13. Dieu leur dit au verset 13, « Vous mangez l'agneau, mais le sang, vous ne le jetez pas. » Qu'est-ce qu'ils devaient faire avec le sang? Le sang vous servira de... Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Ensuite, il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Mes chers amis, j'ai besoin de votre aide pour comprendre ce verset. Dieu dit, vous prenez un agneau, vous le mangez. Mais le sang de l'agneau, vous ne jetez pas le sang. Vous prenez le sang, vous mettez le sang sur les linteaux de votre porte et sur les montants de votre porte. Donc, le sang est mis à l'endroit le plus visible de la maison, sur la porte d'entrée. Et Dieu dit, ce sang sera un signe. Quand je passerai, je verrai le sang. Et là où il y a le sang sur les maisons, je ne vais pas détruire le premier-né qui est dans cette maison. Mais j'ai besoin de votre aide. Depuis quand Dieu a besoin d'un signe visible pour savoir qui l'aime et qui ne l'aime pas? Depuis quand Dieu a besoin d'un signe visible pour savoir qui est fidèle et qui n'est pas fidèle? Depuis quand Dieu a besoin d'un signe visible pour savoir qu'il a accepté ou qu'il a rejeté? Dites-moi, depuis quand Dieu a besoin de ça? Il y a un problème. Est-ce que nous n'avons pas toujours dit que Dieu est omniscient? Dieu lit dans les cœurs? Il y a tellement de personnes qui disent ça. Oh, vous savez, la foi, c'est une question intime et personnelle. Dieu me connaît. Dieu sait qui je suis. C'est une affaire entre Dieu et moi. Je n'ai pas à me déclarer. Oh, le Seigneur me connaît, le Seigneur voit dans mon cœur. Nous disons souvent cela, mes amis. Et quand nous disons ça, nous nous abusons, nous nous trompons. C'est une pensée que le diable met en nous, mais ce n'est pas une pensée qui vient du Seigneur. Car lorsque le Seigneur prépare la libération de son peuple, il demande au peuple, signalez-vous d'une manière visible. Signalez-vous d'une manière remarquable, montrez qui vous êtes, déclarez-vous, donnez un signe, témoignez de ce que vous croyez, affirmez qui vous êtes. N'ayez pas honte de vous-même, n'ayez pas honte de moi, n'ayez pas honte de vous déclarer pour moi. Ce que vous êtes, dites que vous l'êtes. Oh mes chers amis, aujourd'hui, nous vivons une société individualiste, parfois même égoïste. Et nous voulons appliquer nos pensées à Dieu et non pas appliquer les pensées de Dieu à notre vie. Et c'est nous qui disons à Dieu comment nous sommes, comment nous devons être pour être sauvés, au lieu que ce soit Dieu qui nous dise comment nous devons être pour être sauvés. Oh, mes chers amis, lorsque Dieu veut libérer son peuple, lorsque Dieu veut sauver ses enfants, il demande à ses enfants de se déclarer publiquement. Et alors, peut-être que certains me diront, mais ça c'est une histoire de l'Ancien Testament. Mais regardez comment Jésus lui-même récupère cette histoire pour nous parler. Regardez, lisez avec moi. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1er, dans l'évangile de Jean au chapitre 1er et au verset 29, Jean-Baptiste est près du Jourdain et il baptise des gens. Il baptise ceux qui viennent à lui. Jésus aussi vient à lui pour être baptisé. Et quand Jean vient, quand Jean voit Jésus qui vient pour être baptisé, qu'est-ce que Jean dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Autrement dit, dans ce verset, nous apprenons deux choses. Nous apprenons que Jésus lui-même, à un moment, il s'est déclaré pour sa mission. À un moment, Jésus lui-même a été baptisé. Est-ce que Jésus avait quelque chose à confesser? Est-ce que Jésus avait besoin de se repentir? Non! Pourquoi Jésus se baptise? Pour nous donner une leçon, un exemple, dit la Bible. L'exemple qu'il nous donne, c'est que Jésus est en train de dire, quand quelqu'un a quelque chose à faire pour Dieu, il doit se déclarer publiquement. Jésus lui-même s'est déclaré publiquement en se faisant baptiser. Mais lorsque Jésus a été baptisé, Jean dit, vous voyez cet homme-là, il est le véritable agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean dit, l'agneau qu'on avait sacrifié en Égypte, l'agneau de Pâques, c'est lui. D'ailleurs, dites-moi, à quelle fête Jésus a-t-il été mis à mort? Pardon? À quelle Pâque? À quelle fête? À la Pâque. Mais oui, parce que le vendredi que nous appelons saint, je ne sais pas s'il est si saint que ça, le vendredi que nous appelons saint, nous commémorons quoi? La mort de Jésus sur la quoi? Et le samedi que nous appelons Gloria, nous commémorons quoi? Le temps qu'il a passé dans le tombeau. Et le dimanche que nous appelons dimanche de Pâques, nous commémorons quoi? La résurrection du Sauveur. Mais vous savez, la Bible le dit encore plus simplement. Regardez ce que la Bible dit. Dans 1 Corinthiens 5, verset 7. 1 Corinthiens 5, verset 7, la Bible est encore plus claire. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 5, au verset 7, « Faites disparaître le vieux levain. » Le levain dans la Bible, c'est le symbole du péché. La Bible dit, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » L'agneau qui était là, dans Exode 12, n'était qu'une représentation de qui? De Jésus. L'agneau qui était dans Exode 12, qui devait marquer les portes des gens, qui devait signaler qui croit et qui devait être mangé, cet agneau représentait qui? Jésus, mes amis. Et vous allez voir, souvenez-vous, qu'est-ce qu'on devait faire avec cet agneau? On devait d'abord le, je n'ai pas entendu, le manger. Et qu'est-ce qu'on devait faire ensuite après? Prendre le sang et avec le sang, marquer sa maison. Mais vous allez voir, pour Jésus, c'est la même chose. Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, dans Jean 6, au verset 56, Jésus dit, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, demeure en moi et je demeure en lui. » Qu'est-ce que Jésus nous demande de faire, mes amis? De manger sa chair et de boire son sang. Comprenons bien ce que ça veut dire. La Bible dit ce que ça veut dire. Manger la chair de Jésus, boire le sang de Jésus, ça veut dire simplement avoir une relation intime avec Jésus. Que Jésus demeure en moi et que je demeure en Jésus. Vous savez bien que ce que vous mangez vous transforme. Pas vrai? Est-ce que ce que vous mangez vous transforme? Mais vous n'avez qu'à faire une expérience, hein? Buvez 3 litres de rhum par jour pendant 6 mois. C'est très simple, faites l'expérience, mais pas en mon nom. Ce que vous mangez, ce que vous buvez, vous transforme. Quand la Bible dit que Jésus dit, mange ma chair, bois mon sang, Jésus est en train de te dire, il faut que tu aies une relation intime avec moi. Que chaque jour tu manges ma chair, la chair de Jésus, c'est sa parole, la Bible. Que chaque jour tu dévores la Bible, la parole de Dieu rentre en toi. Et cette parole, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te transforme. Le sang de Jésus, la Bible dit que le sang, c'est la vie. Mais ce n'est pas seulement la Bible qui dit ça. Le centre de transfusion sanguine dit ça, pas vrai? Est-ce qu'on ne dit pas ça tout le temps? Le sang, c'est la vie. Donc, quand la Bible dit « boire le sang de Jésus », la Bible dit que chaque jour, tu dois trouver un temps pour regarder comment Jésus vivait, comment il parlait, comment il mangeait, comment il se comportait, quand il allait au temple, qu'est-ce qu'il faisait. Et tu dois prendre la vie de Jésus, et la vie de Jésus doit devenir ta vie. Le sang de Jésus, c'est sa vie. Boire le sang de Jésus, c'est prendre la vie de Jésus et accepter cette vie comme modèle. Donc, Jésus, comme l'agneau pascal, devait être mangé. Mais ce n'est pas tout. Le sang de l'agneau, on devrait prendre et on devait se déclarer publiquement avec le sang. Vous vous rappelez? Sur les poteaux, sur les linteaux de la maison, on devait se déclarer. Est-ce que Jésus nous demande de nous déclarer pour lui? Regardez ce que la Bible dit. Et là, vous verrez que c'est Jésus qui parle. Jésus dit, « Quiconque, dans l'évangile de Marc, au chapitre 8 et au verset 38, Marc 8, verset 38, Jésus dit, « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse. » Mes amis, il faut bien lire ce que Jésus dit. Parce que les gens qui font le mal, ils n'ont pas honte de se déclarer pour le mal. Les gens qui font le mal s'affichent, ils défilent, ils revendiquent, ils se publient. Ils se mettent en ligne. De temps en temps, si vous regardez ce qui se montre sur ce qu'on appelle les réseaux, Facebook, etc., vous serez étonné de voir comment les gens publient le mal qu'ils font, publient leurs bêtises, mettent ça en ligne. Mais c'est incroyable. Ceux qui font le mal n'ont pas honte et ceux qui font le bien se cachent. Ceux qui font le mal s'affichent. Ceux qui aiment Dieu, ils ont honte. J'aime Dieu, mais c'est mon affaire. J'aime Dieu, mais c'est privé. J'aime Dieu, mais personne ne doit le savoir. Alors Jésus dit, mes amis, c'est bizarre. Vous avez honte de moi au milieu d'une génération pécheresse et adultère. Et il dit, non, il ne faut pas avoir honte de moi. Il dit quoi d'autre? Il dit, si vous avez honte de moi au milieu de cette génération pécheresse et adultère, le Fils de l'homme aura aussi honte de celui qui fait cela. Et il dit, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les... Autrement dit, Jésus est en train de dire ici, il ne suffit pas de croire. Il faut que ta foi, il faut que ton adhésion à Jésus soit déclarée. Regardez encore plus clair ce que nous lisons un peu plus loin. La Bible dit que lorsque Jésus nous demande de lui appartenir, il nous demande de nous déclarer pour lui. Prenons un exemple. Prenons l'exemple d'un homme. Et vous allez prendre vos Bibles dans le livre des Actes au chapitre 22. Prenez vos Bibles dans le livre des Actes au chapitre 22. Le livre des Actes vient juste après les Évangiles. Dans le livre des Actes, il nous est raconté les actions des apôtres après que Jésus soit monté au ciel. Les apôtres, vous savez qu'ils étaient au nombre de... Ils étaient au nombre de 12. Mais Judas, qui avait vendu Jésus... Il s'est pendu. Judas a été remplacé par un autre. Mais la Bible nous dit qu'il y a un autre homme que Dieu s'est choisi pour apôtre et il est peut-être l'un des plus célèbres. En tout cas, il est le plus prolifique. C'est lui qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Cet homme, Paul, il était au départ contre le christianisme. La Bible dit qu'il persécutait les chrétiens. Et la Bible raconte qu'un jour, il était en chemin pour aller persécuter des chrétiens. Jésus l'a arrêté. Jésus lui est apparu. Il dit, j'ai vu une lumière extraordinaire. Il raconte je suis tombé de mon cheval. » Et si vous voulez lire son histoire, vous lirez ou bien le livre des Actes au chapitre 9, ou bien au chapitre 22. Au chapitre 22, il raconte tout ce qu'il a vécu. Il dit, « J'allais sur mon cheval, il y a eu une lumière extraordinaire. Jésus m'est apparu. Jésus m'a dit, « Paul, il s'appelait à l'époque Saul, pourquoi est-ce que tu me persécutes ?» Et il dit, j'ai répondu, « Mais qui es-tu ? Je ne te persécute pas, je ne fais que persécuter des hommes. » Et Jésus lui dit, « Non, quand tu persécutes mes enfants, c'est moi que tu persécutes. » Et alors Paul dit, la lumière était tellement forte que sur le moment, il est devenu aveugle. Mais il raconte que Dieu a envoyé un de ses serviteurs pour lui parler. Et regardez ce que le serviteur de Dieu va dire à Paul. Ce serviteur de Dieu s'appelait Ananias. Regardez ce qu'il dit à Paul. Vous avez trouvé Acte 22? Alors lisez avec moi. À partir du verset 12, c'est Paul qui raconte, c'est Paul qui parle. Et voici ce qu'il dit. Il dit, « Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi. » Et qu'est-ce que Ananias dit à Paul? Qu'est-ce qu'il lui dit? Au verset 13, « Et il me dit, « Saul, mon frère, recouvre la vue. » Autrement dit, il lui dit, « Paul, Dieu m'a envoyé pour que tu ne sois plus aveugle. » Et la Bible dit, quand Ananias lui dit cela, au même instant, Paul dit, « Je recouvrai la vue et je le regardai. » Alors Paul était aveugle à cause de sa rencontre avec Jésus. Mais quand Ananias vient, est-ce qu'il est toujours aveugle? Non, il est guéri. Au verset suivant, verset 14, regardez ce que Ananias dit à Paul. La Bible dit, Ananias lui dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à vouloir le juste, à voir le juste, pardon, le juste étant Jésus. » Je reprends, verset 14. « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté. Le Dieu de nos pères t'a destiné aussi à voir quoi ? Le juste, parce qu'effectivement, Paul avait vu Jésus. À voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Et regardez bien, maintenant, mes amis, au verset 15. Au verset 15, Ananias dit à Paul, « Car tu lui serviras de témoin. » Autrement dit, Ananias dit à Paul, « À partir de maintenant, tu seras un serviteur de Jésus. Tu seras un prédicateur de l'Évangile. Tu vas témoigner pour Dieu. Tu vas prêcher, tu vas dire ce que Dieu a fait pour toi et tu vas dire le plan de Dieu pour l'humanité. » Donc, Paul va devenir un témoin vivant. Regardez la suite. « Tu seras un témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et des choses que tu as entendues. » Et mes amis, regardez maintenant qu'est-ce qu'Ananias va demander à Paul de faire. Ce qu'il va lui demander de faire, c'est son premier témoignage chrétien. Ce qu'il va lui demander de faire, c'est son premier témoignage chrétien. Ananias est clair avec Paul. À partir de maintenant, tu es un témoin de Jésus. Et quel va être le premier témoignage que Paul va rendre? Quelle va être la première prédication qu'il va faire? Quelle va être la première déclaration qu'il va faire pour le Seigneur? Qu'est-ce qu'Ananias lui demande? Ananias lui dit, « Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du... » Oh, mes amis, la Bible est claire. La Bible dit, lorsqu'un homme est appelé à témoigner pour Jésus, lorsqu'un homme veut prêcher la parole de Jésus, veut se déclarer pour Jésus, veut dire ce que Jésus a fait pour lui, veut dire la bonté de Jésus, la première chose qu'il fait, ce n'est pas prendre un micro. La première chose qu'il fait, ce n'est pas prendre un crayon pour écrire des livres. La première chose qu'il fait, c'est quoi? Il se fait baptiser. Mes amis, la Bible est claire. Le baptême, c'est le premier témoignage chrétien. Le baptême, c'est le plus puissant de tous les témoignages chrétiens. Parce que quand je me baptise, je dis d'une manière formelle, je crois que Jésus-Christ est mort pour que mes péchés soient pardonnés. Quand je me baptise, je dis d'une manière formelle, je reconnais que je suis pécheur, mais je reconnais que Jésus est juste. Je reconnais qu'il est mort pour moi et je me déclare pour Jésus. Quand je me baptise, je prends le sang de Jésus et je mets le sang de Jésus sur ma porte, sur ma vie. Je dis à tous, regardez, regardez, je crois. Regardez, je m'affirme. Regardez, je m'affiche. Oh, mes chers amis, personne ne peut, avec la Bible en main, croyant en la Bible, déclarer que le baptême n'est pas nécessaire. Personne ne peut faire cela. Personne ne peut le faire. D'ailleurs, personne ne le fait. Puisque si vous regardez toutes les religions chrétiennes, toutes les religions chrétiennes pratiquent le baptême. Toutes. Ça veut bien dire que tout le monde est d'accord que le baptême est un passage obligé pour le croyant. Prenez toutes les religions chrétiennes, elles pratiquent toutes le baptême. Le problème est où? Le problème c'est, est-ce que tout baptême? C'est ça le problème. C'est ça la question. La question ce soir n'est pas de savoir est-ce que je dois être baptisé. La question est claire. Tout le monde est d'accord avec ça. Nous devons tous être baptisés. La vraie question est-ce que je suis vraiment baptisé? Oh mes amis, le baptême, le mot baptême vient d'un mot grec qui signifie immerger, plonger. Le mot même dit qu'un baptême véritable, c'est quelqu'un qui est plongé. Jésus a été baptisé par immersion. Jean-Baptiste baptisait tout le monde par immersion. Les apôtres, quand ils baptisaient, c'est toujours par immersion. Dans la Bible, il n'y a pas de baptême par aspersion, mes amis. Si nous sommes baptisés par aspersion, ce n'est pas le baptême chrétien. C'est le baptême d'une religion, mais ce n'est pas le baptême du Christ. Et qu'est-ce qui me sauve? C'est le Christ qui me sauve. Le pasteur ne sauve pas. La religion ne sauve pas. C'est le Christ qui sauve. Et quand nous sommes baptisés, nous devons être baptisés comme Jésus et en Jésus. Et si nous ne sommes pas baptisés comme cela, pardonnez-moi de vous choquer. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Mais je ne peux pas ne pas vous dire la vérité. Si nous ne sommes pas baptisés comme cela, aux yeux du Christ, nous ne sommes pas baptisés. Car la Bible ne connaît qu'un seul baptême. La Bible est claire, il n'y a qu'un seul baptême, un seul mode de baptême, c'est le baptême par immersion. Oh, mes chers amis, ce soir, c'est le Seigneur qui vous parle. Le Seigneur vous parle en vous donnant sa parole et en vous disant à chacun simplement, en nous disant à tous simplement, si tu m'aimes, déclare-toi pour moi. Si tu m'aimes, n'aie pas honte de moi. Si tu m'aimes, affiche ta foi. Si tu m'aimes, tu dois venir à moi. Car moi, je suis venu à toi, je suis mort pour toi, j'ai payé le prix pour toi. Oh, je t'en supplie. Voilà ce que le Seigneur te dit. Le Seigneur te dit, je t'en supplie. Ne sois pas plus intelligent que moi. Ne sois pas plus grand que moi. N'institue pas ce que moi je n'ai pas institué. Ne transforme pas ce que j'ai institué. J'ai été baptisé pour te servir d'exemple d'une certaine manière. Mais le Seigneur te dit, je t'en supplie, mon enfant, suis-moi pour que tu sois sauvé. Marche avec moi pour que tu sois sauvé. Et le Seigneur te dit ce soir, peut-être que jusqu'à ce jour, tu as déjà dit, mais mangea baptisé. Le Seigneur te dit ce soir, si tu as été baptisé par aspersion, tu n'es pas baptisé. Parce que mes amis, quand Jésus leur a dit, prenez le sang de l'agneau, mettez sur les linteaux et mettez sur les poteaux. Est-ce que vous pensez que si quelqu'un se sentant plus intelligent que Jésus avait creusé les pieds du poteau, il creuse les pieds du poteau et il met le sang au pied du poteau, ce qu'on appelle pour les maçons la semelle. Il met le sang sur la semelle et il remet la terre. Et puis il dit, Seigneur, tu vois, j'ai mis le sang. Est-ce qu'on pouvait faire ça, mes amis? Est-ce qu'on peut faire comme on veut ou comme Jésus a déclaré? Et ce soir, le Seigneur te dit que tu n'es pas venu ici par hasard, tu es venu pour entendre ce message. Le Seigneur te dit, que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé. Que tardes-tu? Lève-toi et témoigne pour le Seigneur Jésus. Que tardes-tu? Lève-toi et appartiens au Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi je voudrais que tous ceux qui sont à l'accueil puissent venir maintenant dans la salle avec moi et proposer à tous ceux qui sont ici, tous ceux qui n'ont pas encore été baptisés comme le Seigneur, on va vous proposer une fiche blanche. Au moins, prenez-la pour la lire. Et sur cette fiche, vous avez la possibilité de dire que vous voulez être baptisé pour le Seigneur Jésus et comme le Seigneur. Si vous êtes prêt, si c'est votre désir, vous serez baptisé le 25 décembre si vous le voulez. Si vous n'êtes pas prêt, si vous ne voulez pas, mais vous voulez entrer dans cette démarche en vous disant, je ne suis peut-être pas encore prêt pour le 25 décembre, mais je sais que je dois me préparer pour cela. Prenez aussi cette feuille, remplissez-la. Et cela nous permettra, si vous le voulez, de faire des études bibliques avec vous, d'avoir des moments de partage avec vous. Et vous allez vous préparer. Et quand le moment sera venu, eh bien, comme Jésus, vous serez baptisé, vous serez sauvé. Passez, je vous prie, dans les rangs. Passez avec vos feuilles. Et discrètement, simplement, si tu sais que tu n'as pas encore été baptisé comme Jésus, fais un signe de la main à celle qui passe avec la feuille. À celui qui passe avec la feuille, prends cette feuille, remplis-la. Et avant de partir ce soir, remets-la à ces personnes qui t'ont distribué cette feuille. Et ainsi, nous allons pouvoir vous préparer pour que vous soyez baptisés comme Jésus. Vous allez vous déclarer pour Jésus. Vous allez témoigner pour Jésus. Vous allez vous afficher pour Jésus. Et vous direz, je sais que j'appartiens à Jésus. Et je sais que lorsque des temps difficiles viendront dans le monde, je serai épargné. Je serai sauvé parce que j'appartiens à Jésus. Oh oui, tu peux dire blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Tu seras plus blanc que la neige. Ananias a dit à Paul, que tardes-tu? Que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de vos péchés. Oh, mes chers amis, ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est la Bible qui vous le dit. Que tardes-tu? Que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés. Appartiens au Seigneur Jésus. Donne-lui ta vie. Dis oui à Jésus. Ne résiste pas à l'appel du Saint-Esprit. Ne résiste pas à la clarté de la parole. Dis oui à Jésus. Accepte Jésus pour ton sauveur. Dis oui au Seigneur. Appartiens au Seigneur. Dis à Jésus de venir dans ta vie. Jésus, viens, sois ma délivrance.
levons-nous. Reprenons le premier couplet.
Jésus, par ton sang,
et chantons ensemble, tandis que nous laissons le Saint-Esprit nous dire ce que nous devons mettre sur cette feuille. Et je prie pour que le Saint-Esprit vienne par ici et nous parle.
Notre Père et notre Dieu, tu as fait bien plus que de nous regarder du haut des cieux. Ce soir, tu es descendu parmi nous. Ta parole nous a été révélée. Ta volonté nous a été communiquée. La vérité nous a été apportée. Oh, nous te disons merci pour cela. Merci Seigneur pour ta vérité. Merci pour ta parole. Ce soir, ta parole a été claire. Et nous ne voulons pas être rebelles. Nous ne voulons pas nous éloigner loin de ta parole. Mais nous voulons en toi trouver la force pour vivre selon ta parole. Nous voulons ce soir te dire, Seigneur, nous sommes incapables de dire que ce n'est pas la vérité. Nous sommes incapables de dire que ce que tu demandes, ce n'est pas écrit dans la Bible. Nous en sommes incapables, car nous savons que c'est la vérité. Seigneur, ce soir, beaucoup sont d'accord avec tout ce qui a été dit. Beaucoup sont d'accord avec le message qui a été délivré. Mais ils se disent, Jésus sait que je l'aime. Jésus sait que je désire vivre pour lui. Je n'ai pas besoin d'aller et de me faire baptiser. Je n'ai pas besoin d'aller jusqu'au bout. Jésus connaît ma relation avec lui. Ce soir, Seigneur, tu nous appelles à être des témoins et tu nous appelles à démontrer publiquement que tu es notre Sauveur, mais également notre Seigneur. Lorsque nous allons voir le quimboiseur, un homme, une femme que nous ne connaissons pas, lorsqu'il nous dit de plonger dans la mer, nous y allons, nous n'y voyons aucun problème. Lorsqu'il nous demande d'amener une poule dans une bouteille de rhum, nous nous arrivons à le faire. Mais plonger dans les eaux du baptême, cela nous paraît difficile. Alors que tu désires nous sauver, alors que tu désires que nos péchés soient pardonnés, alors que tu désires que nous soyons lavés pour l'éternité, sauvés dans ton royaume, notre Père et notre Dieu. Ta parole est claire, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de doute. Accorde-nous la force ce soir de marcher selon ta parole. Accorde-nous la force ce soir de vivre en accord avec ta volonté. Accorde-nous la force ce soir de dire comme Pierre, que tout mon corps soit lavé dans le nom de Jésus. Oh, ce soir, Seigneur, nous voulons également que ton sang puisse nous couvrir, que ton sang puisse être sur nous, de telle sorte que lorsque tu reviendras, que nous soyons scellés pour l'éternité. Oh, notre Père et notre Dieu, que nous ne puissions pas trouver difficile de te suivre, que nous ne puissions pas trouver difficile d'abandonner de mauvaises pratiques, difficile d'abandonner le tabac, difficile d'abandonner l'alcool, difficile d'abandonner un homme qui ne désire pas nous épouser, difficile d'abandonner une femme qui ne désire pas vivre pour Jésus, difficile de mettre en règle notre vie afin que nous puissions véritablement vivre la vie de Jésus-Christ. Le monde n'a rien de bon pour nous. Le monde n'a que déception, angoisse, anxiété, rien, une vie de débauche, rien de bon. Mais toi, tu nous proposes la vie, une vie en abondance, une vie éternelle. Tu nous proposes de vivre une vie épanouie en toi, ô notre Père et notre Dieu. Accorde-nous la force d'accepter ta parole, mais non seulement de l'accepter, mais de vivre pour elle, par elle, et cela pour l'éternité. Ô notre Père, notre Dieu, il y en a ce soir qui ont compris la vérité, qui ont compris que tu ne réclames pas l'aspersion, mais tu réclames le baptême, l'immersion, l'immersion totale. Ils ont compris cela. Ils savent que c'est la vérité. Nous t'en supplions. Donne-leur la force, la force, la force d'aller jusqu'au bout avec toi. Donne-leur la force, Seigneur, de regarder à toi, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Toi, tu as été jusqu'au bout. Tu aurais pu dire, gardez ça. Je vais quitter ça tomber, je vais virer en ciel là. Mais non, jusqu'au bout, tu as accepté d'être cloué. On a cloué tes mains, on a cloué tes pieds, on t'a flagellé, ils ont craché sur toi, ils ont mis un manteau, un vêtement, t'ont caché la vue, t'ont frappé, t'ont dit, maintenant, devine qui est-ce qui t'a frappé. Ils se sont moqués de toi. Tu aurais pu dire, non, je m'arrête, mais tu as été jusqu'au bout. Que nous puissions considérer le sacrifice immense que tu as consenti pour nous et que cela puisse nous accorder la force, nous aussi, d'aller jusqu'au bout, même dans les eaux du baptême avec toi. Beaucoup sont aveugles, ou plutôt étaient aveugles avant de venir ici ce soir. Mais maintenant, ils ne le sont plus, car ils peuvent voir la vérité. Ils peuvent voir la vérité. Donne-nous la force, Seigneur. Nous t'en supplions de vivre proportionnellement à la vérité que nous avons reçue. Donne-nous de prendre ces fiches et de dire, comme Jésus, je désire être baptisé. Donne-nous de prendre ces fiches et de dire, je désire aller jusqu'au bout avec mon Seigneur. Peu importe ce que les autres diront, peu importe ce que ma famille dira, peu importe ce que ma mère, mon père, mon époux, mon épouse, peu importe, si Jésus a été jusqu'au bout, moi aussi, je désire aller jusqu'au bout. Oh, donne-nous la force ce soir, nous t'en supplions. Seigneur Jésus, renvoie-nous ce soir avec ce désir brûlant, ce désir ardent de marcher comme toi tu as marché. Tu n'avais pas besoin d'être baptisé, tu n'avais aucun péché, mais tu as désiré nous laisser un exemple que nous voulons suivre ce soir. Nous ne voulons pas suivre qui que ce soit, aucune religion, aucun pasteur, aucun prédicateur, mais nous voulons suivre Jésus, nous voulons suivre ta parole, et ta parole, c'est la vérité, c'est le chemin, mais c'est également la vie, et la vie en abondance. Notre Père, renvoie-nous ce soir avec la force, avec ta paix, avec ta bénédiction, avec le désir de t'appartenir, avec le désir de vivre ta vie, avec le désir d'aller jusqu'au bout avec toi, notre Père et notre Dieu. Renvoie-nous avec ta présence dans le cœur, avec ton esprit, avec la présence de tes saints anges, et que nous puissions retourner vendredi soir avec de nouvelles dispositions chrétiennes, de nouvelles dispositions pour te suivre et t'appartenir, notre Père et notre Dieu. Que ton esprit nous accompagne, que ta parole continue à nous faire du bien, que tu puisses continuer à nous révéler ta volonté. Nous t'avons prié dans le nom précieux, dans le nom puissant, dans le seul nom par lequel nous puissions être sauvés, dans le nom de celui qui revient, dans le nom de celui qui a donné sa vie éternellement pour l'humanité, dans le nom de Jésus-Christ, et que tous puissent dire Amen.
Amen.